Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Voilà, c'est pas confié l'idée, Tati, c'est qui vos Yana et Anti-Choc. Revenons maintenant à la journée mondiale de la liberté de la presse. Nous recevons dans ce studio Polydor Moboyaï, président de l'Observatoire des médias congolais OMEC en sigle. Avec lui, nous allons faire le point, nous allons parler des délits de presse. Qu'est faire pour éviter d'y tomber dans les délits de presse? Tous les journalistes ont droit à la liberté de presse. Ces droits leur permettent de s'exprimer librement, mais en toute responsabilité. Il procède à la collecte, au traitement et à la diffusion des informations qu'il possède avec objectivité. Cependant, certains chevaliers de la plume versent dans la diffamation, ça peut arriver, ou les accusations sans preuve. Alors, quelles précautions prendre pour éviter les délits des presses? Polydor Mouyaï, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on entend par délit des presses?
Bon, les délits des presses, c'est naturellement la liberté ou la faute qui est commise par voie de presse,
hein. Oui.
C'est-à-dire par la diffusion de l'information au niveau de la radio ou de la télévision, par la diffusion de l'information au niveau de la presse écrite, dans la mesure où on a pris un certain nombre de libertés avec les lois du pays, qui peuvent donc conduire à des poursuites pour diffamation, imputation dommageable et autres choses.
Donc, en bref, on peut retenir qu'un délit de presse, c'est une faute, c'est une infraction qu'un journaliste peut commettre dans l'exercice de ses fonctions.
Oui, bien entendu. Hein, c'est naturellement, comme je l'ai souligné tout à l'heure, le non-respect des droits des autres.
Non-respect des droits des autres. Vous avez des questions, des réactions, composez les 081-890-6394 pour intervenir. Alors, comment les journalistes peuvent éviter toutes ces fautes dans l'exercice de leurs fonctions?
Mais il n'y a qu'une réponse à la question que vous me posez. C'est tout simplement respecter les règles d'éthique et d'ontologie. Nous exerçons un métier qui est codifié. Nous avons des règles. Généralement, les gens ont l'impression qu'on s'introduit dans la presse comme dans une bergerie et on peut y faire n'importe quoi quand on a envie de régler les comptes avec un ennemi politique ou économique. On choisit un journal et puis on peut publier tout ce que l'on veut de manière à s'assurer de l'impunité. Non, ce n'est pas cela. Nous avons le devoir, parce que je le disais bien, nous exerçons un métier qui est codifié, nous avons le devoir de respecter les règles fondatrices de ce métier. Et ces règles, c'est naturellement ne jamais rien vérifier qui n'ait été, ne jamais rien diffuser qui n'ait été au préalable vérifié.
Oui.
Et la vérification, c'est pas simplement s'assurer que le fait qui est allégué est confirmé par une source. Non, le journaliste n'a pas le droit de se contenter d'une source, d'une seule source. On exige, on attend de lui qu'il croise ces sources. C'est-à-dire, vous obtenez une information de quelqu'un, vous essayez d'aller plus loin, d'obtenir confirmation de l'information que vous aviez reçue, et puis de vous assurer auprès de sources nouvelles de la véracité de ce que de la confirmation que vous avez obtenue. Vous croisez les différents éléments, vous allez vers ceux qui peuvent contredire l'information que vous aviez reçue. C'est en les croisant, en les analysant de manière objective que vous, finalement vous engagez sur le terrain de la vérité. Et c'est lorsque vous avez la certitude de vous être engagé sur le terrain de la vérité que vous mettez cette information à la disposition du public.
Tout en citant les différentes sources.
Tout en citant les différentes sources. Donc nous avons cette obligation-là de ne rien publier qui n'ait été au préalable vérifié. Ce n'est pas tout. Nous avons l'obligation, dans le traitement et la diffusion de l'information, de respecter un certain nombre d'obligations, notamment ne pas diffamer quelqu'un, notamment respecter la présomption d'innocence, notamment respecter le droit à la à la considération d'un chacun.
Oui.
Bon, tous ces éléments-là entrent en ligne de compte dans le traitement et la diffusion de l'information.
Voilà, dans cette émission, les auditeurs qui vous suivent de partout à travers le pays appellent. Ils ont des questions, des préoccupations. Il vaudrait bien que avoir des éclaircissements. Par exemple, nous avons déjà en ligne François de Kinshasa et Ignace Ndala nous appelle de Kolwezi. François, bonjour. François, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jonas.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Je voudrais juste demander au président de l'OMEC, est-ce qu'il suit réellement ce que font les journalistes, puisque chaque fois, si un journaliste est arrêté, nos amis des jeunes se soulèvent juste pour demander la libération de ces derniers. Quand bien même les faits sont avérés vrais, est-ce que...
Quel fait, par exemple, François?
Bon, par exemple, il a diffamé sur une personnalité, par exemple. Et ce monsieur s'est allé se plaindre. Alors, même si on n'a pas encore jugé ou établi les faits, mais vous allez suivre nos amis des jeunes qui se soulèvent pour dire non, il faut libérer, arrestation arbitraire, tout ça. Bon, je voudrais avoir un peu de précision sur ce genre de faits.
Merci François, monsieur Polidor.
Oui, merci pour la question. Elle est très intéressante parce que elle induit un certain nombre de considérations. La première est que il faut partir d'un principe. La liberté est un principe qui est sacré, elle est sacrée, et l'arrestation ou la détention est une exception. Ce que nous contestons généralement dans la corporation qui est la nôtre, c'est que lorsque un journaliste a fauté, si vous voulez bien, si vous m'exprimez l'expression, lorsqu'un journaliste a pris des libertés avec des faits, et avant même que cela ne soit formellement établi par un juge, le journaliste se retrouve en prison. Il faut considérer que dans une société démocratique, il ne s'agit pas là d'un traitement équitable, il ne s'agit pas d'un traitement normal. Le journaliste devrait bénéficier de sa liberté jusqu'à ce que, de manière formelle, le juge de dernière instance puisse constater que le journaliste mérite d'être placé derrière les barreaux. Vous avez soulevé la question de réaction des organisations de défense de la liberté de la presse. Mais naturellement, c'est leur rôle. Le rôle des organisations de défense de la liberté de la presse, c'est justement de s'assurer que les journalistes sont en liberté et non de célébrer la détention du journaliste. Vous savez, sur ce terrain-là, nous, au niveau de l'Observatoire des médias congolais, parce que vous me posiez la question tout à l'heure de savoir si nous suivons. Non, oui, effectivement, nous suivons la situation qui prévaut sur le terrain. Et ce que nous avons toujours demandé, c'est que vous, les consommateurs des médias, les autorités qui peuvent naturellement être mises en cause de par le fait qu'ils gèrent la cité et qu'en gérant la cité, ils ont le devoir de rendre compte à ceux qui les ont placés à ce poste. Donc, parce que, après tout, la cité qu'ils gèrent appartient à la population. Ils doivent rendre compte. Et ce qui arrive généralement, c'est que dès qu'un journaliste tente d'investiguer, de voir dans quelle mesure, de quelle manière la cité est gérée, tout de suite, il a des ennuis. Mais ce que nous avons toujours demandé, c'est que les enquêtes puissent être menées normalement et qu'elles puissent aboutir à la confirmation des faits, soit alors à la confirmation de l'innocence des personnes qui auraient été mises en cause. On ne peut pas, avant même que les enquêtes n'aient abouti, conclure que ceux qui ont géré ont raison et que le journaliste qui a dénoncé a tort. De notre point de vue, nous estimons qu'on devrait nous permettre et permettre aux journalistes de faire leur travail. On devrait nous permettre, parce que vous savez, dans la corporation qui est la nôtre, nous avons des structures, nous avons des instances d'autorégulation, comme c'est le cas avec l'Observatoire des médias congolais, c'est le cas aussi avec la commission discipline de l'Union nationale de la presse du Congo. Ces instances d'autorégulation veillent sur le respect des règles d'éthique et de déontologie professionnelle. Et il est plus important que une victime de la violation de ces règles puisse s'adresser aux instances, parce que les instances au moins ont cette possibilité-là, ont cette compétence-là. De
donc,
poursuivre...
on va aller rapidement, comme il y a plusieurs auditeurs qui attendent. Oui. Donc, la procédure, quand un journaliste commet une faute, il faut aller s'adresser aux instances telles que vous l'avez dit, la corporation.
Oui, nous estimons que...
Quelle instance, par exemple? À quelle instance s'adresser?
L'OMECQ est là pour justement veiller sur le respect des règles d'éthique des entreprises professionnelles. Accordez-moi une minute pour achever sur ce terrain-là, parce que je l'estime extrêmement important.
Oui.
Parce que lorsque l'observatoire instruit un dossier et émet ses avis, qui se traduisent naturellement par la diffusion d'un communiqué qui condamne le comportement d'un journaliste qui aurait pris des libertés avec les règles qui régissent notre métier, qui aurait pris les libertés avec la déontologie et l'éthique. Vous savez, ce communiqué-là signifie quoi? Que ce journaliste-là n'est pas un bon journaliste, parce qu'il ne respecte pas les règles.
Mmh.
Et la conséquence pour ce journaliste, c'est que lorsqu'il se présente quelque part, dès qu'il est annoncé, la personne qui devrait le recevoir se dit, non, mais ce monsieur-là, j'ai entendu, on a dit qu'il n'est pas bon. Il prend des libertés, lorsque vous lui dites quelque chose, il va aller déformer. Donc moi, je ne peux pas le recevoir, je ne peux pas lui parler, il risque d'aller déformer. Voilà, là, le monsieur est effectivement sanctionné, non seulement au niveau de la profession, mais au niveau du public consommateur des médias. Mais lorsque on prend quelqu'un qui est peut-être un mauvais journaliste, parce qu'il y en a, ne nous voilons pas la face, qui est peut-être un mauvais journaliste, et qu'on le jette directement en prison, la conséquence est que toutes les organisations de défense de la liberté de la presse se mobilisent immédiatement pour assurer sa défense. Qu'est-ce qu'on fait de ces messieurs? On en fait un héros. Alors que c'était un mauvais journaliste, une brebis galeuse, qu'il fallait évacuer de la corporation, parce qu'on a décidé de le jeter en prison, on en fait un héros.
Un héros, voilà. Nous allons recueillir la question d'Ignace Ndala, depuis Colésie. Bonjour.
Bonjour, j'ai deux petites préoccupations.
Oui.
Je voudrais exactement savoir à quel niveau la responsabilité individuelle du journaliste est engagée et à quel autre celle de sa maison qu'il utilise est engagée. La deuxième préoccupation, est-ce qu'en RDC, le journaliste, on doit aussi à parler de la vie privée des autorités comme on a parlé du dossier de Bill Clinton avec Monica Lewinsky ou tout à l'heure on apprend l'histoire autour de... du président français avec sa femme. Ce sont là les deux questions.
Merci Ignace. Giscard Koussema de Kinshasa, bonjour.
Bonjour Jody Daniel Kachama.
On vous écoute.
Oui, je voudrais parler justement du délit de presse avec cette question.
Oui.
Le délit de presse est souvent attribué aux moutons de presse, donc ces personnes qui ont échoué dans d'autres corps des métiers et qui ont envahi la profession journaliste. Alors moi j'attribue ce fait simplement à la loi qui est trop laxiste, qui a attribué la qualité des journalistes à n'importe qui et même aux personnes qui n'ont pas suivi des formations. Si on peut admettre qu'il y a des écoles qui forment des journalistes, par contre il n'y en a pas qui forment les autres corps de métier comme des photographes, comme des preneurs de vues, qui contribuent aussi au délit de presse. Ma question maintenant au président de l'OMECQ, est-ce que l'OMECQ et les autres associations coopératives ont-elles été associées à la rédaction de la nouvelle loi en gestation, la nouvelle loi sur la presse? Est-ce que cette nouvelle loi nous garantit-elle que cette fois, tous les moutons noirs seront hors du champ journalistique? Et puis, le dernier volet de la question, c'est par rapport à la norme. Est-ce que la nouvelle loi en gestation sur la presse prévoit-elle des normes techniques? Parce qu'on ne peut pas simplement ouvrir une chaîne de télévision sans en avoir les moyens techniques professionnels. C'est comme si on ouvrait un hôpital alors qu'on n'a pas du matériel, et vous le savez, dans ces domaines, on les ferme, sauf au niveau de la presse. Donc voilà un peu des questions que je pose au président de l'OMECQ.
Merci, jusqu'à Kosseman. Voilà, Polydor Mouyaï, vous avez la parole. D'abord, Ignace Ndala, de Colésie, qui pose la question de savoir à quel niveau la responsabilité du journaliste est engagée, à quel niveau la responsabilité de la maison est également engagée. Et puis, sa deuxième question, est-ce que le journaliste a le droit de parler de la vie privée des autorités?
Oui, mais là je crois que ce sont des questions qui sont réglées à la fois par la loi qui régit notre corps de métier, la loi 96 pour le moment. Il y en a une autre qui vient... Qui est en route, qui doit succéder à celle-là, après celle portant sur le CESAC. la responsabilité du journaliste dans le code aussi, de déontologie, elle est personnelle, d'abord. Voilà. Lorsqu'un journaliste, c'est pour cette raison-là qu'il est bien dit, spécifié dans le code de déontologie, qu'un journaliste digne de ce nom prend l'entière responsabilité de ses écrits.
Le rédacteur en chef est censé lire tous les écrits avant la publication.
Non, même si le rédacteur en chef a lu, il n'y a pas de responsabilité collective en ce qui concerne les délits de presse. Non, il n'y en a pas. La responsabilité, elle est individuelle.
Mm-hmm.
Lorsque vous écrivez un article, vous le signez, vous en prenez l'entière responsabilité. C'est lorsque l'article n'est pas signé que la responsabilité en incombe aux médias.
C'est juste la rédaction, il n'y a pas de nom.
Si c'est signé la rédaction, c'est l'organe qui est responsable du contenu.
Ok, voilà. Par rapport à la vie privée des autorités.
Puisqu'on parlait de la responsabilité, elle est à deux niveaux. Donc, c'est là, lorsqu'un journaliste il est poursuivi, il y a une responsabilité pénale, il y a une responsabilité civile.
Oui.
La responsabilité pénale, elle est celle du journaliste. La responsabilité civile, elle est celle de l'organe qui l'emploie.
Mmh.
Par rapport à la vie privée, mais lorsque la question est de savoir si nous pouvons, nous aussi, parler de la vie privée, de ceux qui nous dirigent. Évidemment, il faut toujours essayer de faire la part de choses entre la vie publique et la vie privée. À partir de quel moment une autorité investie de tous ses attributs, à partir de quel moment sa vie privée cède la place à la vie publique, bon, ça pose des problèmes. Mais la déontologie, elle est claire. Elle nous dit, elle nous demande de respecter la vie privée des individus.
Mmh.
Ça, c'est un. Mais si vous faites un mélange de gens, vous mêlez votre vie privée avec votre vie publique, naturellement, vous vous exposez à la critique du journaliste.
Mmh.
Mais est-ce que le journaliste congolais peut faire ce qui se passe
en France ou
aux États-Unis ou ailleurs? Mais vous savez que nous avons ici... un code pénal qui est tout simplement colonialiste, hein, permettez-moi le mot.
Oui.
50 ans après, pas grand-chose n'a changé. Et lorsque vous lisez la loi qui régit la presse jusqu'à ce jour, elle renvoie dans plusieurs de ses dispositions, elle renvoie à ce code pénal-là. On nous avait promis de revisiter ce code dans le cadre de la réforme du droit congolais.
Mmh.
Mais cette réforme n'est toujours pas arrivée, de sorte que nous sommes toujours les otages d'un système.
Voilà, on va aller rapidement. Il y a plusieurs auditeurs qui attendent. Par rapport à la question de Jessica Kosema, Lomek est-elle associée à la rédaction de Lomek est associée à la rédaction de la loi sur la presse, la nouvelle loi par rapport à cette question des brebis galeuses. Est-ce que vous êtes associé ainsi que d'autres organisations des journalistes? Et puis il a évoqué également la question de les moyens techniques pour ouvrir une chaîne de télévision.
Je voudrais, s'agissant des brebis galeuses, souligner un fait. Le journaliste congolais n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter. Le journaliste congolais est le produit d'une société. La société congolaise, tout le monde sait dans quel état elle est aujourd'hui. Elle est dans un état de dépravation.
Oui.
Il faut pas se cacher. La réalité, elle est celle-là. Alors, à partir du moment où la société globale est dans un état de dépravation, les membres de cette société en subissent le contre-coup. Donc, lorsqu'on parle de brebis galeuses, ce n'est pas seulement au sein des médias. Les brebis galeuses, c'est dans l'ensemble de la société congolaise.
Alors, d'ailleurs, par rapport à l'élaboration de la nouvelle loi, est-ce que vous étiez associé?
Permettez-moi d'achever. Si aujourd'hui, l'État congolais est dans l'état où il est, ce n'est pas le fait des journalistes, c'est le fait de ceux qui gèrent. Et ceux qui gèrent, tout le monde sait que ce sont des grands messieurs. Ça, c'est un. Deuxièmement, le journaliste, l'Observatoire, a-t-il été associé à la rédaction de la nouvelle loi? Il y a une chose qu'il faut rappeler ici. La loi en discussion, d'abord la loi sur le CESAC, oui. C'est une loi qui avait été révisitée par les professionnels des médias au centre Bondeko. À la même occasion, nous avions révisité la loi 96 du 22 juin 96. Nous ignorons jusqu'à ce jour si le texte qui a été envoyé en discussion au niveau du Parlement reprend ce que nous avions arrêté ensemble au niveau du centre Bondeko. Nous attendons de voir pour être convaincus. Permettez-nous de faire encore les symptômes. Nous ne pouvons pas trop nous avancer. Ce qui est vrai, c'est que nous avions participé à la discussion, mais il va falloir voir le texte tel qu'il est présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat pour s'assurer que ce texte-là reflète réellement les préoccupations qui ont été les nôtres lors des débats au centre Bondeko. Une autre question a été posée sur les normes. Mais effectivement, les normes sont déjà reprises dans la loi actuelle. Parce qu'on ne peut pas lancer un média en partant comme ça d'une situation qui n'est pas réelle. Le vrai problème qui se pose dans ce pays est toujours un problème de vérification. C'est un problème, le laxisme dont tu parles, c'est au niveau de la vérification. C'est un peu comme les routes qu'on construit dans ce pays. On les construit, un mois après, dès que les premières pluies arrivent, il n'y a plus de route. Donc c'est le problème de vérification, le problème de la réception des travaux, cette situation-là se pose à tous les niveaux.
Et qui doit vérifier ? Qui est censé vérifier ?
L'organe de régulation.
Voilà, nous allons recueillir d'autres questions. Blanchard Louane à Dimbandaka, Hussein Dixi de Baraka et Jean d'Embauche de Colosie. Blanchard, bonjour.
Oui, bonjour, je dis bonjour à tous les journalistes congolais.
On vous écoute, Blanchard.
Oui, je voudrais poser la question à l'invité. Quel type de conseil qu'il peut donner aux journalistes qui travaillent dans des stations privées de personnalités politiques, là où ils ne font que critiquer négativement certaines personnalités politiques. Voilà ma question.
Merci Blanchard. Hussein de Baraka, bonjour.
Bonjour, bonjour.
On vous écoute ?
Oui. J'ai deux préoccupations. La première, j'aimerais savoir le rôle d'un journaliste dans un village où il n'y a pas le juge ou soit le tribunal et que la population est appréhendée par la force de l'ordre inégalement par le problème des têtes, des dons. Ça, c'est ma première préoccupation. Ce peut être le rôle d'un journaliste qui voit tout ça dans un village. Et deuxième, est-ce qu'un reportage, un journaliste qui couvre un événement quelque part, il peut être payé par la maison qui couvre cet événement. Voilà les deux préoccupations.
Ok, merci. Jean d'Embauche de Colésie, bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour à tous les auditeurs de la radio. J'ai une préoccupation.
Oui.
C'est-à-dire, je vais demander à mes invités, qu'est-ce qu'il peut dire aux journalistes qui se laissent emporter par des manipulations politiciennes et quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre pour éviter cela?
Merci Jean, depuis Colosie. Voilà, Polydor Mouboyé, vous allez répondre à tous ces trois intervenants.
Oui,
rapidement.
La première question, c'est le conseil à nos journalistes qui travaillent dans des médias appartenant aux hommes politiques. Mais vous savez...
Et qui ne font que critiquer les autres.
Je dois vous dire que des médias qui appartiennent aux hommes politiques, ce n'est pas un fait congolais. Vous pouvez faire le tour du monde, partout où vous irez, vous trouverez des médias qui appartiennent aux hommes politiques. Allez en Italie, c'est Monsieur Silvio Berlusconi était mania de la presse. Allez en France, vous trouverez la même chose. Et dans la plupart des pays occidentaux, vous trouverez cela. Donc ce n'est pas un fait nouveau et nous ne devrions pas le condamner. Ils investissent dans le secteur et c'est tant mieux pour nous. Mais par contre, ce qui devrait être exigé de ces hommes politiques, c'est de respecter les lois en vigueur. C'est de respecter la déontologie du journaliste. Et là, ce sont les journalistes qui doivent se battre en interne, qui doivent faire comprendre avec sur place, avec les structures qu'ils ont sur place, faire comprendre aux responsables de ces médias, fussent-ils politiciens, qu'ils exercent un métier codifié. ils ne sont pas là pour raconter n'importe quoi, parce que lorsque un journaliste va s'attaquer à un autre homme politique, parce que adversaire du propriétaire de la chaîne dans laquelle il travaille, il va s'attaquer. Mais lorsque, parce que la loi actuelle l'autorise toujours, les poursuites judiciaires vont arriver, il ne sera pas protégé. C'est lui qui sera jeté en prison. Ce n'est pas son patron.
Mmh.
Donc, ils doivent faire passer ce message-là auprès de ces responsables-là et leur dire, écoutez, nous avons un métier, et ce métier-là, il a ses règles, nous avons le devoir de respecter ces règles. On n'entre pas dans une profession par effraction. J'ai entendu tout à l'heure, on disait, n'importe qui fait n'importe quoi. Non, ce n'est pas vrai. Nous avons des règles. Vous entrez dans cette profession, on vous dit, voilà, pour exercer ce métier-là, voilà, 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 voilà. Et si vous êtes en mesure, capable de respecter ces règles-là, alors vous l'exercez. Il y a tout un processus. On ne devient pas, journaliste qui veut.
Hissène, la deuxième question. Hissène a parlé, quel est le rôle d'un journaliste dans un village où il n'y a pas de juge? Et un journaliste peut être payé?
Le rôle du journaliste ne change pas selon qu'on est dans un village ou dans une ville.
Hein. Oui.
Le journaliste, il est là pour traiter l'information, pour faire la cueillette. Le traitement de l'information, où qu'il soit. Son métier est d'informer l'opinion.
Mmh.
L'information qu'il donne, même s'il est dans un village, l'information va arriver au niveau du chef de secteur. S'il arrive au niveau du chef de secteur, il finira par parvenir au commissaire, à l'administrateur du territoire. Et ça finira par arriver aux oreilles du commissaire de district, etc. Ça, c'est son rôle. Où qu'il soit, son métier est d'informer. Il n'a pas un rôle supplémentaire.
Voilà.
Il n'est pas un policier.
Mmh.
Son travail, c'est cueillir l'information, la traiter et la diffuser.
Voilà.
Et surtout, le faire en toute responsabilité.
Est-ce que les journalistes peuvent être payés après son reportage par l'organisateur de l'événement? C'est un autre volet de sa question.
Non, pas du tout. C'est ce qu'on appelle le coupage en jargon. Ici chez nous, en jargon du métier, ici chez nous,
oui.
Et c'est contre ce coupage-là que nous nous battons tous les jours. Donc en fait, le vrai problème, vous parlez du problème de la corruption, malheureusement c'est devenu une gymnastique pour l'ensemble de la société. C'est tout le drame, parce que c'est pas seulement dans le métier de journaliste. Nous en parlons régulièrement, nous avons ce courage-là de nous auto-flageller. Ailleurs, on n'ose pas l'aborder. Quand on l'aborde, ça crée des incidents, voire des incidents politiques. Mais nous avons l'habitude de nous auto-flageller. Nous le faisons, nous le condamnons. Si vous donnez un reportage, une publicité, un reportage publicitaire, ce qu'on appelle un publi-reportage, vous avez l'obligation de payer. Si vous demandez à quelqu'un d'aller faire la réclame d'un produit, d'aller faire la réclame de votre maison commerciale, d'aller faire la réclame de vos éditions, naturellement, vous avez l'obligation de payer selon le tarif en vigueur. Mais si c'est un reportage ordinaire, où il n'y a aucune publicité, le journaliste ne peut pas exiger de prébande pour la publication de ce texte.
Voilà. Le dernier intervenant, Jean d'Ambauche,
qui a parlé... Qu'est-ce qu'il dit aux journalistes qui serait l'objet de manipulations politiciennes?
Oui.
Mais le journaliste n'a qu'une boussole. C'est les règles d'éthique de déontologie professionnelle. Vous êtes l'objet de manipulations. À partir de ces règles, si vous les avez intériorisées, vous allez vous rendre tout de suite compte par la vérification des informations qui vous sont livrées par des politiques, par le croisement de sources, vous vous rendrez tout de suite compte que vous êtes l'objet de manipulation et que ce type d'information, vous ne pouvez pas la publier.
Alors, pour terminer, Polydor Mouboyaï, peut-être qu'il y a certains journalistes, d'ailleurs, qui n'ont, ils sont pas passés par, ils se sont formés sur l'État. Alors, peut-être qu'ils aimeraient bien connaître ces règles. Et où est-ce qu'ils peuvent trouver, y a-t-il des documents qu'ils peuvent trouver, lire et intérioriser pour améliorer leur qualité de travail?
Mais l'Observatoire des médias congolais a eu à mener une campagne de vulgarisation de ce texte-là dans toutes les maisons de presse ici. Bien entendu, il y a tellement aujourd'hui d'écoles de formation de journalistes que de jeunes finissent par venir. Mais nous avons toujours un petit stock de codes de déontologie qui est disponible. Tout celui qui voudrait l'avoir peut s'adresser à l'Observatoire des médias congolais.
Mais pour ceux qui sont en province,
nous avons mené la même opération dans toutes les provinces de la République. Tout récemment, je pense que c'était la province du Maniema qui a sollicité un certain nombre de codes de déontologie. Mmh. Nous avons envoyé un petit stock là-bas qui a été remis. La même chose à Colusi, où il y avait un séminaire qui était organisé par les journalistes de Colusi. Nous avons envoyé un petit stock là-bas.
Et pour ceux qui sont dans d'autres provinces, oui. Pour ceux qui sont dans les autres provinces et qui voudraient bien avoir ces documents, ils peuvent appeler à quel numéro?
Il suffit qu'ils en formulent la demande. Nous oui. avons des antennes provinciales. Si nous sommes même, ils peuvent passer. Ils ont des structures sur place.
Oui.
Il y a les antennes de l'OFEPAR en province. Il y a des antennes de l'Union nationale de la presse du Congo en province. Mmh. Il suffit qu'ils passent par ces antennes-là et que nous soyons informés. Très rapidement, nous allons réagir. C'est notre rôle. Nous allons envoyer le code d'identité.
Voilà, Polydor Mouboyaï, président de l'Observatoire des médias congolais, OMEC en sigle. Je vous remercie.
Merci beaucoup.